France Inter.
C'est original. Avec Leïla.
Bonjour.
Avec Camille Larin. Avec Emma Beaujean, Bruno Péqui, Tanguy Passeroy de Lave. Daniel Morin.
Coucou Tanguy.
Et nos invités, Idir Azoubi et Salif Cissé.
Premier ministre.
C'est vrai, qu'est-ce que vous faites dans les prochains mois?
Il y a de l'embauche, hein.
Le prochain gouvernement. Mec, vas-y.
Allez, salut.
On
n'a
pas le temps, on n'a pas le temps.
Un ticket gagnant. Allez, les deux.
Trop de pression. Nous allons parler d'un film que nous avons adoré, qui s'appelle Météore, signé par Hubert Charuel. Avec Claude Lepape, le film sort mercredi en salle, avec Paul Kircher à vos côtés. Est-ce que vous qualifiez ce film d'une histoire d'amitié?
À 100%.
C'est 100% d'amitié. Talif aussi.
D'amour-amitié, quoi.
Okay.
D'amitié qui transcende l'amour.
Petit tour de table, on va commencer par toi, Camille.
Est-ce que vous avez des amis?
Non. Non.
C'est pour ça qu'on commence par moi.
Est-ce qu'il y a eu une amitié actuelle ou passée quand t'étais ado, où t'étais prête à suivre jusqu'au bout du monde le pote? Parce que c'est quand même ce qui se passe dans Météo.
Ouais.
Est-ce que t'avais une copine ou un copain?
Ouais, mais j'ai l'impression d'avoir toujours des amitiés très intenses, enfin très... oui, très intense.
Non, mais au point de faire des conneries, c'est-à-dire de le suivre en disant ok, j'y vais.
C'est pas arrivé, mais si ça devait, pourquoi pas.
Ok, c'est qui?
Mais c'est tous mes amis actuels.
À tous.
Mon amie Sarah, que j'embrasse.
Ok, voilà. D'accord. Elle te dit, allez, viens, on prend la route, on se casse, on va là-bas, tu y vas sans savoir ce qu'il y a dans le coffre. Tu fais un go-fast, en fait, sans savoir.
Ouais, je pense.
Ok, d'accord. Emma?
Ouais, moi j'ai une meilleure pote qui est mon ancienne coloc, et d'ailleurs on a arrêté de vivre ensemble parce qu'ensemble on perdait des points de vie, vraiment. Vraiment, on a passé des étés où genre on était méconnaissables à la fois parce que on se suit, on fait des trucs trop intenses, genre notre amitié était en partie basée sur le chaos, quoi. Et c'était trop bien, mais je l'aime d'amour encore, mais on a vraiment.
Donc c'est pas la meilleure pote, c'est la pire pote.
Non, bah oui, mais c'est toujours un peu la pire pote, la meilleure pote.
Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Bruno?
Ouais, moi j'ai un pote, je réfléchissais pendant que tu posais la question, mais j'ai vu dans ses décisions que lui me faisait méga confiance et ça me touche beaucoup. Quand on était adolescent, je me cherchais un peu, j'étais en mode, ah vas-y, je vais tenter d'être, je sais pas, coiffeur, ça te dit que je te fasse une coupe.
Oh, wow.
Et il avait vraiment une belle chevelure et tout, il a accepté.
Ça s'appelle pas un pote, ça s'appelle une victime.
Et... ouais, non, mais attends, c'était pas sous la contrainte et tout, hein, c'était vraiment.
Bah, ouais.
Mais j'avais confiance en toi.
Et c'était, bah ouais, non, il s'est foiré. J'ai la vidéo de, en fait, je foire le truc et il a dû faire boule à zéro.
Okay.
Et il était pas vénère contre moi, quoi. Il était en mode, vas-y, c'est pas grave, ça repousse et tout.
Leïla,
oh là là, c'est dur.
Ouais, la pire pote ou le pire pote.
Bah, moi, je crois que c'était mes chéris à chaque fois, mes meilleurs potes. Aussi.
Ah, c'est joli.
Ah, voilà. C'est beau.
C'est beau.
Voilà, on passe
pour
les enfoirés maintenant.
Ah oui, ça a duré deux minutes. Hein,
bah ouais.
Le doute.
En fait, il faut commencer par Leïla. Hein, parce que...
Non,
moi j'ai tendance à pas suivre et à pas partir n'importe où avec quelqu'un en règle générale. J'ai beaucoup de contrôle sur ma vie. Alors un go fast, oui, bien sûr, mais le vrai go fast, il se fait tout seul, Nagui.
D'accord, ok, mais si un pote te dit j'ai tué quelqu'un.
Bah, je lui dis, bah ouais, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Déjà, c'est une erreur qu'il aurait fallu pas faire.
C'est pas bien, c'est pas bien ce que tu as fait.
Non, mais il y a toujours la seconde de réflexion avant de.
Quand tu cherches du réconfort, tu vas pas voir Tanguy, quoi.
La question, c'est le vrai pote, à 3h du matin, il t'appelle, il dit j'ai tué quelqu'un, tu l'aides ou tu dis appelle la police?
Je l'aide, qu'est-ce qu'on peut faire envers un assassin? Je sais pas.
Tu viens d'accompagner.
Je l'accompagne au poste de police pour qu'il essaie de se débrouiller le mieux possible, mais non, je sais
pas. Non, non, c'est vrai que c'est qu'une expression, le côté qui j'appelle si j'ai tué.
Oui, Nagui a tué personne.
Pour
ce que je fais tout au premier degré, du coup, je m'en prends dans un
truc. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait confiance et ils le regrettent maintenant.
Mais pourquoi on parle de l'élection de France Inter la semaine
prochaine? Olaf, est-ce que tu ferais tout, n'importe quoi, pour un pote?
Non, pas de ce genre de choses. Je ne couvrirais pas Tanguy s'il a tué quelqu'un. Non, en revanche, c'est en spectacle. Ouais, j'ai suivi des potes pour faire n'importe quoi en spectacle. Ils m'ont dit, viens faire ci, ça. Et
c'était
une situation,
avec le recul.
Bah en tout cas j'ai fait des choses que j'aurais jamais faites.
Non mais parce qu'on peut suivre quelqu'un et c'est pas forcément une catastrophe qui arrive au bout, ça peut être aussi quelque chose de totalement génial.
Ah
je
vais
embrasser deux potes que j'ai l'un qui s'appelle Philippe Cabijos, qui était vraiment le pote de l'adolescence, celui qui te dit allez viens on fait disco mobile, allez viens on va faire des mariages, viens on va animer des trucs. Et
c'est Guilux.
En fait non mais je l'ai suivi. C'est pour l'anecdote, son père était menuisier et il nous avait fabriqué l'espèce de meuble dans lequel on mettait mettait les platines, les tables de mixage et les deux platines, et on se baladait comme ça. C'est lui qui nous emmenait, on n'avait pas le permis, pour aller faire des soirées, pour gagner un peu de thunes. Et je pense pas que j'aurais eu la même vie sans Philippe. Donc Philippe, je t'embrasse. Et puis évidemment, après, il y a Gérard Pulicino, j'ai fait tellement d'émissions grâce à lui ou à cause de lui aussi. Il y a des émissions aussi. Peut-être pas du
faire.
Non, mais des vrais potes. Salif, est-ce qu'il y a des potes que vous avez suivis, en bien ou en mal, encore une fois, hein, c'est pas forcément, mais les yeux fermés, genre. C'est un pote qui vous dit de faire un truc, vous dites oui parce que c'est le pote.
Bah, moi, je suis assez pragmatique, un peu comme Tanguy, donc je me calme un peu sur ça. C'est je suis pas n'importe qui, n'importe quand.
Vous volez pas des chats, quoi.
Comment ?
Vous volez pas des chats.
Non, on vole pas des chats avec des potes. Mais j'ai un pote qui ferait n'importe quoi pour moi et lui, il me fait peur. Lui, je l'appelle pas quand j'ai des problèmes.
Voilà, c'est le même. C'est le même.
Lui, je l'appelle pas trop.
Et vous, Idir ?
Ben, moi, pareil, franchement, j'ai suivi des gens dans le bien, dans le mal, ça m'a apporté, ça m'a desservi.
Il y a eu des fois où vous avez eu peur, ouais, en disant j'y vais.
Ouais, bien sûr. Bah, après, moi, comme je le dis souvent, des fois, on a tous un ami qu'on aimera toujours, mais qu'on est obligé de séparer de nous parce que sinon.
Danger.
Pas danger, mais ça peut. Ça peut aller dans une mauvaise route.
Une formidable histoire d'amitié, je trouve, hein, parce que ça va dans des mauvaises routes, mais en même temps, d'abord, c'est tellement bien joué par vous trois, Paul Kircher et vous deux, Idir Azoghli et Salif Cissé. On en parle jusqu'à 12h30 de ce météore qui est un... Je fais la vanne tout de suite. Vas-y. Un ovni. Allez. On en parle.
J'ai un petit goût de...
Ah non, je peux même te faire ça.
Ouais.
C'est vrai. Ça, c'est plus drôle.
Un peu la honte. Voici un de la femme, Didi et de Salim.
Je suis fan Didi Razougli. Et je suis fan de toutes les rimes en ougli. Il y a bien sûr Mougli dans les livres de la jungle, mais du coup ça pose le problème des rimes en ingle. Je suis fan de Salif Cissé. Je suis encore plus fan que quand vous étiez déjà passé. J'ai vu tous vos films, votre vie doit être intensif. Pardon, c'est lundi. Nous faut qu'on fasse gaffe de pas user toute notre salif. Et vous êtes là ensemble pour mes théors. La preuve que la bière et l'amitié sont une force. Pour ces jeunes comme les affranchis de la mafia.
Ah, on est lundi.
De vrais gros durs qui tentent de kidnapper un chat.
Le courage.
Oh, quelle chance de recevoir des gens comme vous. Je dois vous déclarer quelque chose d'un peu fou.
Wow. Voilà, changement d'instrument.
Si c'est vrai, y a des gens qui t'aiment, mais pour un film encore plus crème, ben il faudra y dire. C'est comme un acteur qui déchire. Merci. Juste un trio, facile à faire, un peu plus velours avec Paul Kircher. Puisque nous on est France Inter, on a souvent des gens vulgaires, nous on préfère y dire. Et Salif Cissé, ça fait plaisir. Une émission facile à faire, un peu plus d'amour que d'ordinaire. Ouais, je suis fan d'Idir, je suis fan de Salif. Je vous aime tellement, je réécouterai l'émission en rediff. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Bravo.
Et merci pour l'aide.
C'est normal, je rappelle, Ol de Laf, Ol, c'est Olivier, c'est Olive. il sera où sur scène ?
Alors Olive, le premier...
Tu expliques cette vanne à l'antenne.
Bah non, t'as remis le casque, c'est tout.
Avec insistance, on a remis mon petit boîtier...
Avec précision.
Dans le bas du dos.
Pour ne pas qu'il bouge.
Le sniper, son Nagui. Le 1er avril, au Folie Bergère, sans Nagui, Gérald.
Je t'accuse,
c'est dommage.
Météore, donc le film signé Hubert Charuel, l'histoire de trois amis inséparables. Ça commence justement, on parlait de ce vol de chat, faut l'expliquer, ça commence par... D'ailleurs, c'est dans la bande-annonce, ça.
Ouais.
Ça commence par une...
un vol de Maine Coon.
Une connerie, oui, oui. Maine Coon qui était un chat tigre, en fait. C'est, je crois que c'est les plus gros chats du monde.
C'est une chatte, elle s'appelle Ruby, et c'est une très bonne actrice.
Et je la salue.
et elle a les mêmes poils que vous.
Exactement.
C'est ouais, ça, la vanne est en drôle. La vanne est dans la bande-annonce.
La scène, l'interrogatoire au commissariat est exceptionnel.
Le mec est prêt à tout pour dire c'est pas moi. Mais
c'est dans... pas les poils du chat, c'est les cheveux.
Blond vénitien.
Blond vénitien, exactement.
Avec c'est ses... un chat de concours. C'est un super beau chat.
En qui fait. Vaut des fortunes.
Qui vaut une fortune.
Mais sauf qu'au moment où il le vole, il n'en sait rien, pas. Il n'y connaît rien.
Non, mais bon,
il sait que c'est un beau chat.
Il sait que c'est un Maine Coon et que ça vaut cher.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ces deux potes joués par Paul Kircher et vous, Idir Azoghli, se retrouvent donc embringués dans arrêté, parce que conduite en état d'ivresse, ayant pris des stupéfiants, vol de Maine Coon et le chat que l'on ne retrouve pas malgré la puce et le GPS.
Association de malfaiteurs. Comme Sarkozy.
C'est le chat qui fait le français dans la forêt avec la puce, c'est vraiment à pleurer.
L'interrogatoire, c'est extrêmement drôle. Et ils ont besoin de se racheter aux yeux de la société. Et c'est là où vous intervenez, Salif Cissé, puisque vous avez une société, une boîte qui peut les employer, leur donner des fiches de paye. Donc, ils peuvent rentrer dans le rang.
Ouais, exact. Exact. Et ouais, c'est une boîte un peu particulière. C'est une poubelle. En fait, je travaille dans une poubelle nucléaire. Mmh. C'est-à-dire que mon personnage, il
non,
aide.
Non, il fait des boîtes de béton en fait, ouais, dans lesquelles on peut mettre du nucléaire.
C'est
des déchets,
ça. C'est exactement.
Ça s'appelle vraiment une poubelle.
Vulgairement.
C'est comme
oui.
ça que vous le vivez.
Bah là où tu mets des déchets, ouais.
Oui.
Mais vulgairement, il l'appelle voilà. un peu comme ça.
Ouais. D'accord. Ouais.
Poubelle nucléaire.
Vulgairement. Ok. Mais est-ce que ça a un nom dans la vraie vie?
Je sais que c'est un vrai nom.
On entrepose des déchets nucléaires. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est souvent sous-traité. Ça, il faut le savoir. C'est sous-traité, d'où votre entreprise.
Exactement.
Ah oui, parce que dès que c'est en lien avec la radioactivité, on sous-traite.
Et surtout que.
Les spécialistes en radioactivité.
Bah, ah ouais, non, j'ai l'impression.
Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. ça m'intéresse parce qu'on exploite tristement les pauvres gens avec des entreprises de sous-traitance.
Exactement.
Comme ça, les grosses entreprises ne prennent pas trop de risques et ça ne vient pas à leur bilan.
Et avec des mecs pas déclarés en plus.
Bah là, voilà. C'est ça la particularité. Voilà. C'est qu'il faut quand même avoir une qualification pour bosser là. Il faut connaître un peu toutes les règles de sécurité. Eux, ils connaissent rien, ils débarquent en pieds nickelés et du coup il arrive des choses.
Et c'est lui, il est un peu quoi, il joue le rôle du sage devant ces deux fous, il essaye de les calmer, il se moque un peu d'eux, il est beaucoup plus calme que eux qui sont un peu en train de chercher le moindre plan pour partir la Réunion faire un refuge pour les animaux, parce que j'aime les animaux.
Mais je pense que c'était des potes de beuverie dans leur enfance, et lui c'est le seul qui s'est rangé, il a eu un enfant, du coup il a dû s'en sortir, mais c'est vrai qu'il les connaît, il sait très bien qu'ils ont rien à faire là, mais il a pas le choix de les embaucher quoi.
Mais comme vous plus pragmatique le personnage.
Un peu beaucoup plus pragmatique.
Il faut s'en sortir, donc je prends un
bout. Exact.
Idir, vous êtes la mauvaise pensée, toutes les mauvaises idées de Paul Kircher, c'est vous qui les avez, hein, on est d'accord.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, c'est une personne qui vit dans un environnement où il n'y a pas trop grand chose à faire, donc
il s'emmerde. Il cherche à faire des choses, même si c'est
pas... Il cherche
pas...
des plans.
Exactement.
Des
plans. Bon, là, des fois, il bascule beaucoup dans le mauvais, malheureusement, mais c'était nécessaire de parler sur ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans ces situations-là, et voilà, mettre la lumière sur la diagonale du vide, c'est intéressant.
C'est-à-dire, je m'emmerde, je sais pas quoi faire, donc... alors c'est pas spécialement pour faire une connerie, c'est pour avoir des plans de thunes rapides.
Ouais, c'est ça, mais c'est en vrai, en fait, il a des rêves toutes les 30 secondes, je
pense. La démerde.
Ouais, voilà.
Il n'y a pas de méchanceté, c'est une espèce de boule de neige comme ça qui grossit.
Enfin, il n'y a pas de méchanceté. Tu piques un chat, tu pourrais te dire, peut-être qu'il va manquer à quelqu'un.
Non, Nagui, ne faites pas votre personne de gauche. Ça ne marche pas du tout.
Wokiste.
Oh là là, Nagui. On va mettre le holà tout de suite.
J'aime les animaux.
Non, mais pour mettre les choses à leur place, c'est un chat, quoi. C'est pas non plus un enfant.
Ouais, voilà, écoute, les.
Voilà. Non, mais en soi, c'est pas.
Je vais quitter ce plateau.
En soi, c'est pas un délinquant. C'est pas un délinquant ni un voyou.
C'est pas un méchant.
Non, lui,
il y a une humanité.
Il pense qu'il fait de mal à personne.
Exactement.
Même si ce qu'il fait ne respecte pas les
exactement,
les règles.
Il se fait du mal à lui-même aussi.
Oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que c'est un personnage qui s'aime pas suffisamment pour prendre soin de lui.
Exactement. Exactement.
Ce film s'appelle Météor parce que initialement, et j'ai redemandé au
réalisateur. Ça s'appelait Le Chat.
Non, il y avait une histoire de météorite qui a disparu du scénar.
C'est ça.
Ça a gardé le titre, mais il n'y a plus de météorite.
Il n'y a plus de météorite. Ouais. En fait, le réalisateur au début voulait faire une histoire catastrophe et plus il écrivait, plus il se disait non, en fait, je veux juste parler de ces trucs.
Pourquoi il n'a pas changé de nom?
Ben, parce que ça en a gardé, parce que.
Flemme.
Moi, je pense qu'il savait que ça allait faire parler, donc du coup, il s'est dit, allez, je garde ça. C'est plus chiant que trois amis.
Hein.
Ouais. C'est plus chiant. Ouais, c'est moins chiant, je veux dire.
Ça attire, en tout cas, on se dit météore.
Il y a la bière qui joue un rôle important. Il y a la bière qui joue un rôle important.
Exactement,
oui. Quand même, c'est la bière.
Même le personnage.
C'est une marque de bière.
Il y a la marque de bière sur son.
Et c'est ça, c'est le
son de la bière.
Ouais, c'est marque de bière aussi.
Ah, il t'a manqué ça comme.
J'avais pas la vanne. Elle a un rôle important dans le film.
Il y a un S à météore.
D'accord.
Ouais. Mais il en prend plusieurs.
Je rappelle que dans Catastrophe, il y a 4 chats.
C'est pas la marque.
Et si on parlait du Premier ministre.
Oui. Voici Bruno Pecky. Qu'est-ce que vous, Bruno? Vous n'auriez pas fait un film sur l'amitié comme ça, vous?
Bien sûr que non, j'aurais pas fait pareil. Mais je dis ça surtout pour vous, Salif et Idir. Je sais pas si à votre place, j'aurais accepté ce rôle. Voilà, on parle quand même du deuxième film d'Hubert Charuel et son premier, c'était Petit Paysan. Qui, je vous le rappelle, a gagné 3 Césars, dont 2 pour les acteurs. En d'autres mots, cher Salif et Idir, vous avez la pression. Voilà. Bah, si le film Météor fonctionne moins bien que Petit Paysan, les gens vont se dire, mais pourtant je comprends pas, c'était le même réal, les mêmes scénaristes, qu'est-ce qui a changé? Oh, les acteurs. J'ai vérifié, même l'ingé son, c'est le même. Quoi. Donc si ça cartonne, on dira que c'est grâce à Charuel et son équipe, et si ça foire, ce sera de votre faute. Vous avez tout à perdre. Et voilà, fin de chronique, bonne continuation. J'aurais fait différemment. Bon, il dirait Salif, vous, je vous aurais gardé. Voilà, et je dis ça pas parce que je vous ai trouvé super dans le film, pas du tout. Parce que vous êtes deux, donc c'est à bagarre, je perds. Voilà. Non, mais Paul Kircher, j'aurais pas pris. Non, alors lui, non, pas du tout par rapport à sa performance. Hein. Juste que le mec, il est né en 2001. Mais vous en avez pas marre de prendre des acteurs plus jeunes que moi, quoi. Vous pensez que voir des footballeurs nés une décennie après moi, c'était pas suffisant? Je me remets difficilement du fait que c'est trop tard pour devenir joueur pro et gagner un ballon d'or. Et là, je découvre que c'est aussi trop tard pour percer comme comédien et gagner un César du meilleur espoir. Non, je refuse. Mais bon, dans ce film, j'ai quand même découvert plein de choses. Hein. Commencez par la Haute-Marne qui se situe dans ce que vous appelez la diagonale du vide. Oui. Voilà. Et moi, en tant que Suisse, je connaissais pas la diagonale du vide, puis on m'a expliqué ce que c'était. En gros, c'est une zone du territoire dans laquelle il n'y a rien à faire, il y a que des champs, et à certains endroits, il y a plus de vaches que d'habitants. Bah, chez nous, on appelle ça la Suisse. Voilà. Nous, on a carrément les perpendiculaires du vide sur le drapeau, quoi. Alors, le film se passe plus précisément à Saint-Dizier, où a grandi le réalisateur, là où il passait notamment sa vie au cinéma Cinéqué, dont il disait « Les films du Cinéqué, je les ai fumés. » Les DVD de Cora, je les ai fumés. Les joints, je les ai fumés. Bon, bah, ça montre bien qu'il n'y a pas mille choses à faire à Saint-Dizier, quoi. Heureusement qu'il n'a pas traîné la station-service, sinon il l'aurait fumé aussi, il serait plus parmi nous aujourd'hui pour faire des films. Ah, mais Hubert Charuel, c'est le pire ambassadeur de la région, quoi. Avant de voir le film, on connaît pas Saint-Dizier, puis on découvre cette ville dans laquelle il y a des poubelles nucléaires, donc finalement, on veut plus y aller, quoi. Moi, je connaissais pas les poubelles nucléaires, mais déjà, les poubelles, ça fait pas envie, le nucléaire, ça fout les boules. Ouais. Alors, les poubelles nucléaires, je veux dire. Surtout quand tu sais qu'à côté, il y a un mec qui fume tout ce qu'il trouve, ça donne pas envie de mettre les pieds à Saint-Dizier, c'est méga dangereux. Hein. Alors on l'a dit, ce superbe film sur l'amitié entre mecs, sur la France des oubliés et sur les méfaits de l'alcool commence par le vol d'un chat Maine Coon. Et ça, perso, je pourrais pas. Bah, non mais voler un être vivant et sans défense, je suis trop allergique pour le faire. Voilà. Par contre, braquer une banque à main armée, ça y a aucun souci, quoi. Je suis suisse, braquer une banque pour nous, c'est pas un crime, c'est du patriotisme. C'est comme un breton qui braque une crêperie, quoi. C'est le mal du pays. Alors les personnages risquent 5 à 10 ans de prison pour avoir volé ce chat, ce à quoi votre personnage, Idir, répond « Je dormirai en prison, mais la tête est haute ». Ah non, attendez, peut-être que je suis pas encore là. Pardon, désolé. Enfin, reste une question. Pourquoi Météor comme titre? On l'a dit juste avant. L'origine, le film devait raconter la chute d'une météorite sur Saint-Dizier. Seulement 2 ans d'écriture plus tard, les auteurs ont décidé de retirer la météorite. Mais apparemment, ils ont oublié de changer le titre, quoi. Et bon, j'en connais un qui a dû continuer à te fumer des joints, quoi. Non, en réalité, ils ont gardé le titre car Météor rappelle les apparitions célestes qui témoignent de la vacuité de l'existence et de la rapidité avec laquelle une étoile peut s'écraser sur le sol. C'est la vraie explication. Ouais. Si ça, c'est pas une phrase écrite par un mec qui vient de fumer 4 joints, franchement, je comprends plus rien. Bref, si j'ai un conseil pour terminer, foncez voir ce film qui sort en octobre 2026. Non, pardon, octobre 2025. Désolé, non mais dans les médias en ce moment, dès qu'un film sort en octobre, on peut facilement se tromper d'année. Et sinon, Idir et Salif, est-ce que ça va?
Sur scène, Bruno Pecky, les 28 et 29 octobre à Genève, au spectacle
Onésien. Ça s'appelle complète, ouais.
Et le 5 novembre à Estavayer.
Le film a été présenté à Cannes, vous y étiez dans la salle quand il y a eu cette présentation, et comment vous l'avez vécu, Salif?
Waouh, c'était particulier parce que en fait il y avait aussi des gens de l'équipe dans la salle et il y a pas mal de gens de l'équipe dans le film. Une lubie de Hubert et Claude. Okay. Il y a plein de potes en fait qu'ils ont et qui jouent
qui
dans le film.
Ils font des caméos comme ça, qui sont
font des caméos, genre la juge, les policiers et tout. Et en fait, eux, ils étaient un peu, tu vois, ils étaient un peu panique quoi.
Bah ouais,
enfin, nous, on l'était, mais du coup, j'ai transféré mon stress sur eux.
Ça va.
En regardant, je me dis, bah ils sont plus paniqués que moi, donc ça va, tu vois. Non, mais c'était vraiment bien. Et à la fin, on a eu une vraie standing sincère avec des bien appuyés. Donc
et une vraie émotion, y dire.
Ouais, franchement, c'était super bien, moi j'ai eu la chance d'avoir un petit câlin de James Franco qui pleurait, donc j'étais très très content, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'applaudissements mais on était stressés, c'est vrai, il y avait beaucoup de gens qui toussaient aussi.
Qu'est-ce qui porte l'émotion d'après vous, parce que vous dites pleurer, c'est un film où on rit aussi également où on s'inquiète, moi le GPS du chat, j'avoue, les interrogatoires avec la police, ça, vraiment c'est des moments où je veux,
mais on fait pas que rire,
non, c'est pas une comédie, mais ça, moi je trouve que ça interroge vraiment sur l'amitié, sur jusqu'où on peut aller.
Et amitié, amour, c'est ce que vous disiez là.
Exactement, bien sûr. Moi, dans le scénario, ce que je trouvais bien, c'est qu'en fait, souvent on parle beaucoup de l'amour homme-femme, homme-homme, femme-femme, mais là c'était vraiment une vraie amour amicale et il fallait vraiment en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça qui s'aiment et qui essaient de s'élever vers le haut.
Ouais, et puis il y en a qui se font du mal à eux-mêmes. Vous, votre personnage, il se rend bien compte qu'il n'est pas dans les clous.
Bien sûr. Mais après, aussi pareil, dans le scénario, ce que j'ai bien aimé, c'est que justement, c'est à la fin, c'est la mauvaise personne qui décide de partir.
Ouais.
Voilà, et du coup, c'est... C'était
vous voulez spoiler, vous voulez tout.
Non, il a pas lancé.
Calme-toi. Il faut le contrôler.
Comme dans le film. Et Salif, j'y prends le même. Parce qu'il y a aussi de l'amour de votre part. On sent que les trois ont été extrêmement potes et proches. Et qu'il y a un petit côté protecteur avec cette notion de maintenant, je me suis installé, j'ai ma vie, j'ai ma société, j'ai de la thune, j'ai de la maille par rapport aux deux autres.
Clairement.
Je veux bien vous aider, mais il va pas falloir non plus que le château de cartes s'écroule à cause de vous, quoi.
C'est ça. Et puis il y a aussi un syndrome de survivant, quoi. C'est-à-dire que réussir tout seul sans ses potes, c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Donc je pense qu'il a un peu de culpabilité. C'est pour ça qu'on explique à peu près pourquoi il s'enquiquine avec eux. Mais oui, moi je disais à Hubert, je disais il faut qu'on sente qu'il les aime, sinon on comprend pas pourquoi ils traînent avec eux. Oui, quoi. Il a aucun intérêt.
Mais il est pas exactement prêt à tout.
Non, pas exactement prêt à tout.
Contrairement au duo formé par les deux autres. Quoi.
Exact.
Ouais.
Le nucléaire est quand même au centre. On va en parler tout à l'heure avec et à propos de Greenpeace également avec Pauline Boyer qui sera notre invitée. Que faire de ces déchets nucléaires? Parce que c'est aussi l'un des sujets du film, notamment avec cette phrase qui est juste ouf et qui est sûrement vrai, qui est de dire on sait en tout cas que ces caisses qui protègent de la radioactivité vont tenir 60 ans. Ouais, il se passera quoi après 60 ans? On s'en fout, ça tient 60 ans. Ok, donc tu fais le boulot et on veut pas savoir ce qui va se passer après. Genre, on sera pas là, c'est plus notre problème.
Bah, c'est ce qu'on avait vu dans Rembrandt.
Ouais, aussi.
Sur les centrales nucléaires. C'est quoi l'avenir? On sait pas. À court terme, à peu près. Le long terme, on verra bien.
Il y a même des déchets qui sont censés périmer dans 1 million d'années.
Ouais.
Et justement, ils cherchent des moyens de prévenir les gens qui seront là s'il y a des gens et qu'il y a des déchets à cet endroit enterré. Donc, on parle d'animaux translucides, de trucs, enfin, c'est du n'importe quoi.
C'est le sujet aussi, l'un des sujets du film qui a eu le prix du jury Passe Culture à Cannes, Météor. Ce film sortira donc ce mercredi. Et puis il y a aussi les femmes qui sont elles placées par rapport à ces trois potes qui n'ont pas vraiment un comportement de mâle alpha. Il n'y a pas vraiment de domination des mecs dans cette situation.
Ils sont trop défoncés.
Par contre, les filles, les femmes sont côté police, côté juge, côté avocate.
Ouais, c'est ça.
Et qui ramène un peu à la réalité et qui calme un peu les mecs.
Bah ouais.
Non mais c'est vrai.
Je le découvre.
Tous les mecs sont de côté de la ligne et toutes les.
Après elles sont plus âgées aussi donc.
Elles
incarnent l'autorité aussi par ça.
Ouais.
Météor ce mercredi au cinéma, on en parle jusqu'à 12h30, mais vous l'avez compris, c'est un très Bravo. Bon film. Voici venir Camille Lavard. En fait, non, c'est Melochi.
Oh là les amigos, oh là, aïe. trop contente de revenir. En plus, ça tombe bien, j'ai un coup de gueule à pousser. Et ça, à France Inter, ils aiment trop. La chronique engagée, arme de gauche au merdo, tu connais. Bref. Donc, l'autre fois, j'étais sur Insta, je scrollais tranquille et tout. Et là, je vois quoi? Une vidéo qui dit comme quoi, il y a la marque Shein, eh ben, elle arrive en France. Ouais. Non, mais sans déconner, dans des grands magasins, genre au BHV, je sais pas quoi. Alors, moi, déjà, ça, je connaissais pas. Eh, pour moi, le BHV, c'était la maladie qui m'avait refilé Grégo, mon ex. Chien galeux, là. Qui s'est tapé tellement de temps, on l'appelle le petit navire. Bref. Donc, non, de ce qu'on m'a dit, en fait, le BHV, c'est un monument du chic à la française, comme les Galeries Lafayette ou le Vélodrome. Et donc, tu as Shein qui débarque là-bas. Vous connaissez Shein? C'est une marque de vêtements low cost fabriquée en Chine. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. C'est eux qui font la fast fashion éclater sa grammaire à 3 euros le crop top. Que tu l'achètes, le temps de faire la monnaie, le crop top, il devient juste un crop. Ah, ça déconne. Oh, ils ont même des t-shirts à 1 euro. Non, mais c'est quoi ça, 1 euro? Oh, c'est pas un t-shirt, oh, c'est un supplément sauce. Tu vois ce que je veux te dire? Après, faut pas se plaindre de la qualité. Hein. Oh, tu achètes un jean à 5 euros le lundi, t'es temps de passer le mercredi, c'est un short. Oh, carrément, l'autre fois, on est parti au mariage à mon cousin Tony et j'avais commandé sur le site. C'était à l'ancienne, tu vois. J'avais pris des escarpins, tarpins classe pour aller avec ma petite robe noire. Ah, y'a la bombe. On aurait dit la célèbre actrice du 7e art, Audrey Hepburn. Donc, on arrive à la mairie et tout. Et là, tu vois pas le talon, il arrive avant moi. Oh, j'ai monté les marches un peu vite, tu vois. Tu as la moitié de la chaussure, elle s'est détachée, elle a volé jusqu'à l'hôtel. Oh, sur ma vie, Tony, il a failli dire oui à une semelle. Déjà, la qualité Shein, elle est éclatée. Mais le pire, les amis gosses, oh, c'est comment c'est fabriqué. Oh, tu vois pas, c'est des pauvres gens, ils travaillent dans des caves sans fenêtres, sans clim, apparemment plus de 75 heures par semaine. Oh, 75 heures, t'imagines? Oh, c'est presque trois questions à Nagui. Je te parle même pas des conséquences avec l'environnement, hein. Ah, frérot, en termes d'empreinte carbone, un pantacourt Shein, c'est à peu près l'équivalent d'une influenceuse lifestyle. Tu as capté? Je le sais parce que c'est Hugo Clément, il a dit, il a fait un reportage dessus. Ah, ya, Hugo Clément, la pomme, j'aime trop. Rien qui défend tous les animaux et tout, même les moches. Le gars Joe, il défend autant les teckels que les dindons. Le gars, il voudrait qu'on tue aucun animal, genre comme Nagui. Sur ma vie, les gars, ils sont contre la chasse et l'anti-moustique. Ouais. Bref. Alors après, bien sûr que je capte, les gens, ils vont sur Shein parce que, à cause des petits budgets, évidemment. Mais pour ça, les frérots, oh, venez, on va sur Vinted, c'est la même, en fait. Vinted, tu sais, c'est le site là où tu mets tous les trucs que tu veux plus chez toi, genre ton jean slim ou ton ex. Dans les deux cas, tu l'as sur toi, ça te gratte carrément ton corps, il fait des réactions et tout. Eh ben, sur Vinted, tu peux te débarrasser de lui et tu en as un nouveau. C'est pas pour rien que ça s'appelle le second domaine, j'agacais. Bref, tout ça pour dire que ce soit ton mec ou ton crop top, l'important, c'est de privilégier la qualité. À bon entendeur. Ciao, ciao.
Yes, Melochi.
Ah, Camille, que vous pourrez trouver sur Netflix dans French Lover.
Je suis pas fou, je suis comme tout le monde, j'ai des défauts, des atouts. J'essaie de garder mon cœur, je me dis que le bon Dieu voit tout. Ça sert à rien de jouer à Dieu, sache que je sais.
Après Melochi,
Jules.
Jules. Je fais partie de la bande originale de Météor, sur laquelle il y a également. Il y a Attic aussi, la petite étoile. Et on va parler de la musique dans vos vies, Idir et Salif, en sachant que nous recevrons Pauline Boyer, donc chargée de campagne nucléaire du côté de Greenpeace France. Et on va parler de ces fameuses poubelles nucléaires. Mais d'abord, en 93-95, Salif Sissé, vous écoutiez. I used to read Word Up magazine, Salt and Pepper and Heavy D up in the limousine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. I let my tape rock till my tape pop, smoking weed and bamboo, sipping on private stock. C'est la batterie du grand Master Flash, là, non?
C'est possible. Ah ouais. Bon.
93, bon, on a la naissance de Salif. Hein,
absolument, Salif, vous êtes né en 93, vous avez grandi dans la cité des 4000 à la Courneuve, avec une mère qui allait tous les ans à la fête de l'Huma.
Ah, j'aurais pas dû le dire.
Ça, ouais, c'est ça, ça va ressortir, mais qu'est-ce qu'elle faisait à la fête de l'Huma? Pourquoi la fête de l'Huma? Non, c'est bien.
Elle kiffait, quoi.
Et elle vous emmenait?
Ouais, elle m'emmenait tout le temps.
En vous expliquant quoi?
Pas grand chose, ouais. On comprend pas grand chose, on écoute les musiques justement, il y a beaucoup de musique à la fête de l'Huma.
Beaucoup de musique, avec, j'ai l'impression, une mère très qui avait une bonne poigne, quoi, qui a toujours une bonne poigne, j'imagine, qui vous faisait lire, qui vous faisait. Vous êtes le seul garçon de la fratrie.
Je suis le seul garçon. C'est les mères papa, quoi. Même s'il était là, mon père, mais ouais, il prenait sa place aussi.
Elle était féministe, c'était une combattante.
Je pense qu'elle l'aurait jamais définie comme ça, mais maintenant, avec le recul, je dirais que ça, oui. Carrément. Ça. C'est une vraie, vraie combattante.
Avec des valeurs.
Avec des grandes valeurs.
Tout simplement. Idir, vous écoutiez.
C'est grand de Master Flat derrière encore. Je reconnais aussi.
Ça boit, oui.
C'était le classique. Ah ouais, Dragon Ball Z.
Ouais, vous êtes à Marseille. Marseille. Forcément, elle est heureuse, Camille Lamabre. Marseille en 95. Qu'est-ce qu'on peut dire de votre famille?
Qu'ils étaient très gentils et qu'ils se sont bien occupés de moi jusqu'à ma majorité.
Ouais.
Et voilà, après on a fait le reste du chemin seul.
En faisant du foot, en faisant du rap, en faisant quoi?
En faisant tout. Franchement, je faisais. En fait, quand j'étais petit, toutes les semaines j'avais une nouvelle idée.
Une activité différente.
Exactement.
Okay.
Exactement.
Mais est-ce que vous étiez bon à quelque chose?
Franchement, non. Et au final, c'est le cinéma qui est venu me...
Et la musique, on vous entend chanter dans le film.
Oui. Non, après la musique, oui, j'écrivais un peu et tout, je voulais vraiment faire, mais bon, je me donnais pas vraiment les moyens, et voilà, comme un peu Dan aussi, je me disais, ouais, c'est pas pour moi, c'est impossible.
Comme le personnage dans le film.
Ouais. Voilà, exactement. Ouais.
En 2016, vous écoutiez Salif, si c'est... Très peu d'autotune, vraiment, très peu.
Limité.
Et Salif Cissé, que fait-il, Leïla, en 2016?
Eh bien, vous entrez au conservatoire.
Eh oui.
Ouais, vous réussissez le concours, ça a été dur?
Ça a été dur, mais grâce à cette musique, j'ai combattu mon stress, c'est pour ça que je l'ai mise.
C'est vrai?
Ouais,
vous l'écoutiez avant de...
Je l'écoutais avant de rentrer sur scène. Je faisais un personnage qui s'appelait Richard III, dans Shakespeare, et c'était un peu un personnage de méchant, quoi. Et comme j'ai pas du tout l'air d'un méchant, il fallait que je me donne du courage.
Et quel mot on a envie de dire sur scène quand on est jeune apprenant et qu'on commence sur les planches? Il y a des textes comme ça, du répertoire, classique, moins classique, qu'on a envie de dire?
Shakespeare, Hugo.
Ouais.
En vrai, j'aime beaucoup Racine aussi. C'est des auteurs qui écrivent pour les acteurs. Il y a quelque chose de très actif qui ramène aux émotions directement.
Mais comment vous les avez découverts? Qui vous a amené à ces lectures?
Bien, c'est en fait moi j'ai découvert le théâtre par hasard et je connaissais rien. C'était il y avait deux personnes qui ont commencé pour moi cette activité. C'est Élise Châteauret et Anis Rally. Anis Rally qui est devenu un très bon pote à moi et Élise Châteauret aussi, mais c'est des metteurs en scène, ils font plein de trucs et c'est grâce à eux en vrai que je fais ça.
Et c'est eux qui vous ont dit tu devrais lire Shakespeare, tu devrais lire Racine?
En fait comme je suis assez geek, moi je rentre dans une activité mais par contre j'y vais à fond. Donc du coup j'ai commencé à lire, je voulais un peu rattraper mon retard, quoi. Donc c'est eux et moi.
J'ai beaucoup aimé le regard sur Idir, sur le par contre j'y vais à fond. Ils sont pas du tout concernés par ce regard.
Non, je voulais balancer personne.
Tranquille. Moi oui. Idir en 2016-2018, vous écoutiez. Elle correspond à quoi cette musique? Vous l'écoutiez à quel moment?
Je l'écoutais à un moment où j'étais un peu entre l'école et entre peut-être faire des formations, peut-être aller directement travailler. Et voilà,
Vous vouliez faire quoi?
À la base, je voulais être opticien.
Ouais.
Ouais, je voulais être opticien. Mais après, en fait, le CAP, il est passé bac pro, tout ça. Du coup, j'ai laissé tomber. J'écoutais cette musique en marchant dans les rues de Marseille.
Moi. En marchant dans les rues du quartier de Belzins, par exemple.
C'est ça.
Et puis, il y a des contes de fées qui arrivent. Et c'est ce qui vous arrive. Vous nous le racontez?
En fait, ouais, je faisais des formations et un soir d'hiver 2017, je marchais. Et d'un coup, je me fais caster par une directrice de casting qui s'appelle Sandrine Appuyade. Et en fait, elle m'arrête, elle me dit bonsoir, je peux te parler? Oui, mais il y a tout qui fuse dans ma tête. Qu'est-ce qu'elle veut me parler? Peut-être que si, peut-être que ça. Et au final, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Elle me dit on prépare un film, ta tête nous intéresse, ça t'intéresserait? Je dis oui, pourquoi pas. Après, il y a une personne qui travaille avec elle qui est, comment on dit à Marseille, sortie du goudron, commence à me prendre en photo, tout ça. J'ai dit ah ouais, ça peut être bien. Et du coup, j'ai passé le casting. 1, 2, 3, j'ai été pris.
C'est comme Scheherazade, le film de Jean-Bernard Marlin.
Exactement, César
Ce qui est quand même fou, comme histoire, sans remuer les choses, mais peut-être donner de l'espoir à certaines personnes. Vous avez touché à tout et fait des conneries comme on peut en faire, mais vous en êtes sorti. Comment on s'en sort quand quand certains vous mettent dans des cases, dans des catégories, en disant t'as fait une connerie, donc t'es dans la case délinquant et on veut rien savoir. À quel moment on se dit je vais pas avoir cette étiquette, voire ce tatouage toute ma vie, et je vais m'en sortir?
Bah en fait c'est tout simple. Moi je dis souvent si on fait pas tout pour quitter la galère et la délinquance et la rue, c'est qu'on l'a pas vraiment connue. Parce qu'en fait, quand tu la connais, tu fais tout pour partir, parce que voilà, le but c'est pas ça. Et moi, j'ai très vite compris ça.
Du coup, malheureusement, on peut fréquenter aussi des gens qui d'un coup vous disent, je vais te mettre sur un plan ou.
Ah oui, totalement, totalement.
Ah ouais, comment on fait le tri entre la bonne et la mauvaise info, justement, parce que c'est aussi la question que pose Météor. Comment on se sort de la merde quand on peut se donner le sentiment que c'est sa place, c'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on fait de la merde. Donc, à quel moment on se dit, j'arrête aujourd'hui?
Tout simplement, faut sentir que ça sent la merde et du coup partir, tout simplement. Voilà. Mais ouais, moi j'ai très vite compris et je voulais partir de tout ça. Et après, voilà, la chance m'a souri en faisant un casting et en étant casté.
Ouais, c'est vous qui avez souri à la chance.
Exactement. Mais après, voilà, même si c'est un casting sauvage, vous savez, c'est compliqué. C'est facile d'y entrer, mais c'est plus difficile d'y rester.
Ouais.
Donc, du coup, il a fallu bosser.
Comment vous avez bossé justement pour avoir le rôle de.
Oui, Salif, il a travaillé.
je sais.
Je m'entraînais tout seul à la maison, en fait. Tout seul. Parce qu'à Marseille, il n'y a pas trop de cours, tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour en parler s'il y a des écoles de cinéma et des trucs qui peuvent s'ouvrir, ça serait intéressant. Mais moi j'ai bossé seul à la maison avec des petites techniques comme ça, je m'entraînais un peu à gommer mon accent, à ci, à ça, et voilà, j'avançais tout doucement.
Vous avez fini l'entraînement pour gommer l'accent ou...
Toujours pas.
mais c'est dingue qu'on en soit encore là, à se dire il faut que je gomme mon accent.
Exactement.
C'est quand même une plus-value maintenant.
Mais le truc c'est qu'en fait au début, moi pareil, je passais des castings, mais j'avais énormément l'accent marseillais, et du coup je comprenais pas pourquoi on me refusait les castings. Et en fait j'ai commencé à gommer, et en gommant cet accent, je me suis rendu compte que non, faut pas que tu la gommes, faut juste que t'arrives à plus ou moins parler correctement et faire en sorte que tous les Français te comprennent quand tu parles.
Bien sûr.
Et voilà, il y a le maîtriser. Aujourd'hui, dès que je prends le train à Marseille, je laisse l'accent. Et dès que
j'ai gommé mon accent du 93 et je le regrette sur certains trucs.
Mais vous pourriez le retrouver.
Oui, je pourrais le retrouver.
Il a très bien, parce que Salif a de la famille à Marseille aussi.
Ouais, j'ai son accent à lui aussi. Non, mais non, putain.
Il a vu ça à Nagui, mec.
Non, mais voilà, c'est le matin.
2021, Salif, vous écoutiez. After hours of El Molino, a social just talking women and vino. The contract like 91 Dan Marino. I swear this guy Michael Rapino's boosting my ego. Overly focused is far from the time to rest now. Drake et Jay-Z, ça c'est pas l'intelligence artificielle qui a fait ce duo là, il a vraiment existé. Ouais. La musique, vous avez dit tout à l'heure qu'elle vous permettait de vous mettre dans des états pour jouer. Vous avez une BO à chaque rôle?
Non, pas forcément, mais j'ai des tendances. En fait, je pense que instinctivement, je me mets certains sons dans ma playlist qui sont en rapport au rôle que je fais, mais je le fais pas de manière très consciente.
Ok.
Et puis en fait, le premier rapport au jeu, il est venu par la musique. Par interpréter mes rappeurs préférés, apprendre l'anglais pour pouvoir parler comme Jay-Z, faire comme Jay-Z. Enfin, il y avait un truc un peu qui m'a beaucoup servi là-dedans dans le jeu.
Et on vous retrouve sur Netflix à ce moment-là dans Headless Night et aussi chez Desplechin.
Ouais.
C'est un peu le grand écart.
C'est
être tout terrain. C'est important d'être tout terrain.
Je sais pas si c'est important, mais moi j'aime bien me dire que voilà, je viens du 93, mais en même temps je vais faire le conservatoire, ce qui a rien à voir, mais je vais prendre un peu de tout ce qui me sert. Et en fait j'aime bien faire des mélanges. Je pense que c'est important, ça enrichit tout le monde.
Et Arnaud, pardon, des péchins qu'on recevra la semaine prochaine avec Nadia Tereskiewicz.
Ah bien.
Absolument. Et là aussi, le film avait été présenté à Cannes.
Ouais.
Donc en fait, vous êtes un habitué de Cannes.
J'essaye de battre le record d'Idir, mais... au Martinez, tout en haut. Non, je ne peux pas battre le record d'Idir pour l'instant. Mais...
même chose, Idir aussi, Cannes.
Ouais.
Vous êtes un habitué de Cannes, en fait.
Ouais,
vous êtes des petites mascottes à chaque fois.
En fait, c'est ça l'accent, c'est l'accent cannois.
C'est pas loin, t'as 2 heures de route, hein, c'est rien. C'est Jul que vous écoutez dans ces années, vous, Idir, en 2021.
Très peu d'autotune aussi.
On a dit pas de jeu.
John et Jules.
Et on vous retrouve dans Bac Nord.
Ouais, l'anecdote, c'est qu'en fait, dans cette musique, je joue dans le clip. Je joue dans le clip de cette musique.
D'accord, dans le clip de John.
Ouais, c'est ça.
Ok,
c'est ça.
Très bien.
Et vous jouez un flic dans Bac Nord.
C'est ça.
Le film de Cédric Jimenez qui a réuni plus de 2 millions de spectateurs, même plus. Hein,
2 222 000.
Ah, allez.
La famille.
Le Marseillais, je pense. Ce qui est fort, c'est que c'est toujours un chiffre rond des mecs qui vont au cinéma.
Mais vous avez raison, ça compte. Ça a été un véritable carton. C'est un film aussi qui a déclenché un peu une polémique.
Aussi.
Puisqu'il a été récupéré par l'extrême droite pour dire à quel point. Vous voyez l'insécurité, vous voyez l'obligation des policiers sur place à parfois déborder un petit peu du cadre. Comment vous l'avez vécu, vous, Marseillais ?
Ben moi, en fait, comme je suis pas, en fait, je m'écarte beaucoup de la politique parce que je m'y connais pas trop. Mais ce film, c'est vrai qu'effectivement, il a été repris par des médias, décider ça. Mais je pense que à la base, on voulait juste parler d'une histoire et on voulait juste montrer une histoire qui s'est passée à Marseille.
Ouais, mais un film, c'est comme toute œuvre d'art, c'est politique. On le dit souvent dans cette
émission.
Bien sûr. Là, en l'occurrence, sur le nucléaire aussi, c'est une prise de position en disant bah, les gars, c'est bien de dire l'électricité est propre, c'est bien le nucléaire, mais on fait quoi de ces déchets qui risquent de ressortir de terre ou de ces poubelles nucléaires, de ces espèces de buildings et de béton qui les entourent, puisque c'est ce que vont faire ces trois potes dans le film Météor. C'est ce dont on va parler avec vous. Pauline Boyer, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être présente à ce micro. C'est un vrai problème, le déchet nucléaire. On en fait quoi ? Ils vont où ? Ils restent en France ? On les emmène à l'étranger ?
Alors, on n'a pas le droit de les envoyer à l'étranger normalement. C'est pas pour ça que la France ne le fait pas tout le temps.
Voilà.
Mais c'est un vrai problème. Et depuis le début, l'industrie nucléaire savait qu'elle allait générer des éléments radioactifs qui n'existent pas dans l'univers. Elle ne savait pas quoi en faire, mais a toujours promis de trouver une solution pour gérer ses déchets.
Et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui, dans des labos, étudient comment éliminer les déchets radioactifs.
Alors, il y a eu des tentatives.
Des gens qui bossent là-dessus ou pas ?
Oui.
Est-ce qu'on cherche encore ?
C'est comme tu fais un poison, tu fais un antidote.
Oui, mais est-ce qu'on cherche encore ?
Il y a eu des tentatives infructueuses, notamment avec les supergénérateurs qui posaient plein de problèmes de sécurité. Et aujourd'hui, la solution qui est pour l'instant proposée par le gouvernement, c'est d'enterrer, d'enfouir une partie des déchets nucléaires les plus radioactifs dans CIGEO, donc, qui est le projet de centre de stockage pour enfuir les déchets à 500 mètres sous terre, ce qu'on voit dans le film.
Exactement.
On les mettrait donc dans des
fûts.
Colis, oui, dans des fûts en acier, des colis en acier, on appelle ça. Et donc, ce sont des matières les plus radioactives qui sont issues de la production d'électricité nucléaire en France.
Mais on sait que mécaniquement, comme c'est dit dans le film, ça finira par ressortir, par transpirer.
Ça sera un problème, oui.
Exactement.
Atteindre les nappes phréatiques, la nature ou le sol, quoi, tout simplement.
Exactement. Même l'ANDRA, donc l'Agence nationale qui gère les déchets radioactifs
en
France, le disent eux-mêmes maintenant.
Ça
parce
va sortir
que
un jour.
Il y a beaucoup d'experts qui ont travaillé sur ce dossier, qui ont pointé tous les risques, donc pour la population, pour l'environnement et pour les travailleurs qui pourraient travailler sur ce chantier s'il était effectivement mis en œuvre. Et donc on sait que le stockage ne sera pas imperméable, qu'avec le temps, les déchets vont se diffuser comme une espèce de tisane dans la terre et vont polluer l'eau.
Alors, comment les sites sont choisis ? Ils sont sacrifiés ? Quelle est l'idée ? Ou alors, c'est d'aller dans des zones les plus...
On ne le fait pas à Nice, on ne le fait pas...
Voilà.
On le fait pas dans certaines régions, bizarrement, je crois.
Les sites sont choisis. Donc, il y a un film, un documentaire qui retrace justement comment on a trouvé comment il a été décidé que les déchets iraient à Bure, donc dans cet endroit donc, à cheval entre la Haute-Marne et la Meuse, parce qu'il y a très peu d'habitants, donc il y a moins d'opposition potentielle. Pourtant, il y a une opposition.
Donc, ce n'est pas en fonction des sols, ce n'est pas en fonction des nappes phréatiques.
Non, c'est de la densité de la population.
C'est en fonction de la capacité
D'énervement, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Et du monde qui a exproprié aussi, parce que ce sont aussi des expropriations, de l'accaparement des terres pour enfouir les déchets nucléaires dans le sol. Et ce qui fait que, donc, à CIGEO, donc à Bure, ça fait 30 ans qu'il y a une opposition des habitants et des habitantes à ce projet. Et il y a une répression policière énorme avec des des contrôles d'identité constants, une présence constante de la police. C'est ça le projet d'enfouissement des déchets nucléaires.
Le problème est le même dans le monde entier. Comment les autres pays gèrent les poubelles radioactives ?
Alors, c'est en France, on est le seul pays qui fait ce qu'on appelle du retraitement des déchets radioactifs. Donc, il y a une usine à La Hague.
Donc, on est les bons élèves du monde ?
Les mauvais élèves.
Ah, les mauvais !
Parce qu'en fait, le retraitement, c'est pas vraiment un retraitement, c'est une séparation, une division des combustibles donc irradiés, ce qui ressort du cœur de réacteur nucléaire une fois qu'il a été assez utilisé. Et donc, on le divise en différentes parties, en plutonium, en déchets ultimes.
Du tri sélectif, quoi.
Voilà. Mm-hmm. Sauf qu'on a des déchets qui sont hyper dangereux, très toxiques, pour des centaines de millions d'années. Et donc, on a séparé à différents
Mais
endroits.
Mais qu'est-ce qu'ils font, les pays qui sont les bons élèves différents?
Alors, il n'y a pas de bons élèves, parce qu'en fait, il n'y a pas de bonne solution pour gérer les déchets radioactifs. C'est ça, en fait, on est dans une impasse. Et j'ai beaucoup aimé le passage du film dans le labyrinthe. Mmh. En fait, c'est un labyrinthe sans issue, parce qu'on ne sait pas quoi faire de ces déchets. Et c'est pour ça qu'il est urgent d'arrêter d'en produire, parce qu'on voit bien, et le dossier qui est en cours d'instruction, donc le dossier pour le projet CIGEO à Bure, est en cours d'instruction par les autorités de sûreté nucléaire. Et étant donné que la France veut relancer le nucléaire, il se précipite pour autoriser le projet, alors qu'ils disent eux-mêmes qu'il y a plein de questions de sécurité, de sûreté dans ce projet, qui sont sans réponse, mais que l'exploitant, ça fait 30 ans qu'il n'arrive pas à y répondre, mais il pourra y répondre dans les 10 prochaines années.
Alors, étant donné la consommation électrique en France, comment faire sans le nucléaire ?
Ah mais on a beaucoup plus de plans, justement. Le
eh ben, on vous écoute, allez-y. Voilà.
Ça tombe bien, je pense que allez, je cherche le ministre de l'écologie, de l'environnement. C'est bon.
On verra.
Il y a un job qui s'est libéré.
Il
y
a beaucoup de jobs qui se sont libérés.
J'ai appris ça, effectivement, avant de venir.
Non, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est de voir qu'on a un parc nucléaire qui est vieillissant. Les centrales nucléaires arrivent à péremption. Et là, on veut les prolonger parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre. Alors qu'en fait, ce qui est très clair, c'est que le débat aujourd'hui, ça devrait être comment est-ce qu'on consomme moins d'énergie pour sortir des énergies fossiles, pour utiliser moins de ressources naturelles, comment on améliore l'efficacité énergétique investissant dans la rénovation des logements.
Ce sont les questions, Pauline. Et quelles sont les réponses que vous avez ?
Ah bah, c'est investir dans la rénovation des bâtiments, c'est changer nos moyens de transport.
Mais alors, pardon, allons au bout. Investir dans la rénovation des bâtiments ne veut pas dire arrêter le nucléaire.
Eh bien, pour moins consommer.
Si, parce qu'on consomme moins et que le reste, on le produit avec des énergies renouvelables. Ouais. Et les énergies renouvelables, elles permettent, dans les prochaines années, là on est dans la décennie qui est cruciale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, c'est beaucoup plus rapide à mettre en place que des nouveaux réacteurs nucléaires qui prennent 17 ans à être construits.
Les pro-nucléaires vous disent justement que c'est propre.
Ce n'est pas propre, on en parle et vous le voyez bien dans le film.
Non, ce n'est pas propre parce qu'il y a des déchets radioactifs.
Oui.
Mais c'est par rapport au charbon et par rapport à tout ce qui a pu se faire.
Non, mais il faut arrêter le charbon aussi, on est d'accord. C'est pas du renouvelable.
Non. Mais c'est perdu.
Qu'est-ce qui est perdu ?
Ce combat est perdu.
Ah non, pas du tout.
D'ici 10 ans, en 10 ans, opérer cette bascule-là.
Ouvrant les yeux, Pauline, longtemps. C'est foutu.
Mais on va tous croire. Non, mais choisir le gouvernement.
Mais non, Pauline, arrête.
C'est perdu.
Tu te fais du mal.
C'est jamais perdu.
Je voudrais qu'on parle de ceux qui, comme dans le film, travaillent sur ces poubelles. On les envoie à la mort.
Alors ce sont des métiers dangereux, les métiers du nucléaire. C'est souvent aussi des gens qui travaillent pour des entreprises en sous-traitance. Hein, c'est pas EDF, Orano, ils sous-traitent tous ces métiers-là. C'est souvent des personnes qui sont en précarité, qui n'ont pas d'autre choix que de travailler dans ce secteur-là.
Ils sous-traitent parce qu'ils ne veulent pas être responsables de ce qui peut leur arriver.
Parce que c'est plus facile. Et chez EDF, 80% des doses radioactives sont prises par des salariés sous-traitance. Et le suivi n'est pas forcément le même. Et donc aujourd'hui, le risque dans CIGEO, c'est que y a des risques d'explosion par production d'hydrogène dans les colis radioactifs. Et donc on a des risques d'explosion et d'incendie qui pourraient arriver pendant l'exploitation du projet, pendant qu'on creuse et qu'on remplit en même temps de radioactivité. Et c'est un risque énorme pour les travailleurs du nucléaire.
J'imagine qu'on peut en apprendre encore beaucoup sur greenpeace.fr, le site internet chargé de campagne nucléaire. Donc à Greenpeace, Pauline Boyer, venue à ce micro, merci.
Merci
Pauline
pour cet optimisme partagé.
Merci.
L'hommage des Mabojans. Ah,
Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage aux présentateurs télé. Enfin, globalement plus aux personnes qui font partie de notre paysage depuis tout petit. Alors évidemment là, je sais pas, on pense tout de suite à des figures comme Michel Drucker, ambiance journée du patrimoine ou quoi la team. J'adore la vieille pierre. En vrai, Michel Drucker c'est une dinguerie. Il a connu tous les présidents. C'est fou. Il a connu le général et avant ça, il était au collège avec Tanguy Pastureau. Il a connu la télé en noir et blanc, les tubes cathodiques et les écrans plats. Il a interviewé les plus grands, Céline Dion, Johnny Hallyday, Vercingétorix. La légende raconte qu'il y a 1500 ans, un soir d'orage, les nuages se sont écartés en deux. Il est descendu sur Terre dans un faisceau de lumière nue comme un verre. Et depuis, il veille sur les humains et s'assure de notre bon équilibre. En parlant de Michel Drucker, en fait, je souhaite surtout rendre hommage à la sagesse et surtout à la longévité, aux vieux quoi. Non mais vous vous rendez compte ou pas ? Vous savez comment c'est dur de rester aussi longtemps à l'antenne, croyez-moi, il y en a un qui sait comme c'est dur. Tristan Lopin, pense à toi, petit ange, parti trop tôt. Non mais alors, la question est la suivante. Qui, aujourd'hui, peut prétendre tenir aussi longtemps ? Je parle évidemment de carrière dans le PAF, hein, pas de performance sexuelle. C'est une chronique média aujourd'hui, pas forcément le moment idéal pour shamer les éjaculateurs précoces qui nous écoutent, que j'embrasse d'ailleurs, mes petits éjac-prec, comme je les appelle, ma petite commu. J'ai l'habitude. Évidemment, pour une carrière aussi immense, on peut penser à vous, Nagui, vous qui êtes toujours dans les clous, comme on dit, quand on est ringard. Je vous propose même de faire une petite mise en situation si ça vous chauffe. Imaginez, nous sommes un dimanche après-midi de 2060. Nous avons 35 ans de plus. Et c'est vous, Nagui, qui présentez Vivement Dimanche sur France 2 Accor Hôtel Matmut Buvet Red Bull. À vos pieds, le chien de Michel, en hologramme. Face à vous, une actrice à la carrière immense, au talent immaculé. Moi. Alors c'est parti, petite mise en situation quand vous voulez nager.
Salut la team, ça dit quoi ? Bienvenue dans Vivement Dimanche The Bee. Sans plus attendre, elle est là pour nous présenter son nouveau film, sorti uniquement en format vertical sur TikTok, en 5 parties. Voici Emma Beaujean.
Bonjour Nagui. Un petit peu gênant comme présentation, non ? C'est vraiment aléatoire comme façon de parler. Enfin, moi, Milora. On se connaît depuis combien de temps, vous et moi ? Vous ne laissez pas impressionner parce que j'ai 3 Césars, 2 Sept d'or et que j'ai gagné Interville avec Axe Les Thermes en 2032. Non, il ne faut pas faire comme si on ne se connaissait pas, non ?
Pardonnez-moi, je suis peut-être un poli, Emma. On se connaît ?
Bah enfin, Nagui, la grande époque de la bande originale, France Inter, non ? Nagui, les années 2020, la pandémie de Covid, la montée de l'extrême droite, Tanguy Pastureau, vous ne vous rappelez pas ?
Je vais être honnête avec vous, j'ai la mémoire qui défaille quelque peu depuis le gouvernement a mis du chlore dans l'eau.
Bah enfin, Nagui, rappelez-vous, vous ne pensez pas à Lisa Delmoitié ? On raconte qu'à l'époque, elle a fait une chronique à chaque étoile dans le ciel. Vous ne vous rappelez pas ? Daniel Morin, mais si Daniel, vous étiez amoureux de la même femme et vous vous étiez battu pour elle et pourtant elle a choisi de rester mariée à mon père. Vous ne vous rappelez pas ? Mélodie Fontaine, je suis passée la voir au domaine des Trois Moulins pendant sa cure de désintox. Elle ne se rappelle plus de vous non plus. Mais enfin, Nagui, vous ne vous rappelez pas ? Hold Laff, les bracelets de force, l'article Mediapart. Vous ne vous rappelez pas de Leïla ? Mais si, Leïla, elle avait toujours des réductions sur les entrées au Futuroscope.
Attendez. Leïla, vous dites ?
Oui, Nagui, oui.
Leïla
Mais non, mais pas Leïla Kaka.
Léa Kadour,
oui,
ça y est, je me rappelle.
Ça. Oui. C'est ainsi que le vieil homme connut une dernière fois le bonheur, grâce à son ami qui lui avait rendu visite dans sa résidence senior de luxe. Cette nuit-là, il s'endormit avec le sourire. Vous aussi, n'hésitez pas à aller donner un petit peu d'amour à nos aînés de temps en temps, un petit peu de conversation. Non, vous savez qu'en fait, j'ai eu l'idée de faire cette chute de chronique parce que récemment, j'ai parlé avec une dame qui s'occupe des personnes âgées dans les EHPAD et qui m'a dit que la plupart du temps, son boulot à elle consistait à faire celui des enfants et des petits-enfants, c'est-à-dire être là, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Bon, évidemment, c'est toujours très dur d'être présent quand on a sa vie à soi. Mais c'est important d'envoyer un petit message quand c'est possible. Alors, en voilà un pour vous, si vous écoutez la radio, vous n'êtes pas seul. Et voici un hommage pour vous. Merci de m'avoir écouté.
Merci, Emma. Elle est où, Emma ?
Elle est au Théâtre des Mathurins. C'est tous les vendredis à 21h.
Tanguy Pastureau, oui. Moins 1000 ans, nous a rejoint. Tu vas parler de quoi ?
J'avais écrit une chronique sur Sébastien Lecornu en disant qu'il était promis un grand avenir. Je viens de la jeter et à la place, je vais parler bien des chiens.
Très bien. Et nous, on va parler des chats avec Idir Azoghli et Salif Cissé dans le film Météore, le film d'Hubert Charruel qui sort mercredi au cinéma. C'est quoi ? C'est la bande originale avec Leïla.
Bonjour.
Avec Camille Lavabre, avec Emma Beaujean, Bruno Pecky, Oldelaf, Tanguy Passuro, Daniel Morin.
Coucou Camille.
Et nos invités, Idir Azoghli et Salif Cissé.
La bande originale, Leïla Kaddour et Nagui.
L'histoire de Météor, ces potes qui sont eux-mêmes des météorites, peut-être chacun pour être le météorite de l'autre, parce que chaque vie bouscule respectivement la vie des deux autres. Il y en a un qui peut paraître plus sage, ça ne veut pas dire qu'il est plus honnête ou plus gentil, allez savoir, mais en tout cas il est installé, il a la situation, il a la société, il
la
a
maison.
Sa famille, il a l'argent, ouais. Et il a les possibilités d'engager et de sauver. Ces deux potes qui ont absolument besoin, sous menace d'aller en prison, absolument besoin d'avoir des fiches de paye et des analyses qui prouvent qu'ils ont arrêté de consommer des stupéfiants.
C'est ça, et de boire de l'alcool aussi.
C'est ça. Ouais. Oui, bah, les deux étant des drogues finalement dangereuses au volant.
Bien sûr.
C'est là le. C'est là
jouer
le,
avec modération.
C'est là le problème. Non, non.
La drogue avec modération.
Ah, non plus.
Ah, pardon.
Mais là, non plus. Non, mais je dis une formidable histoire d'amitié.
Ouais,
parce qu'on a l'impression que ce sont deux potes, non, ce sont trois potes, parce que même si il y a des prises de tête entre vous, Salif, et Idir et Paul, je parle des personnages, ouais. Au fond de lui, quand même, il y a une histoire d'amour, d'amitié.
Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, on a tous connu des potes comme ça, même quand on n'a plus grand-chose à voir ensemble, on se fréquente plus trop, on n'a plus trop les mêmes activités, c'est des gens qui vous restent au corps, quoi. Et on les voit, on n'a pas envie de les lâcher, on n'a pas envie de les laisser, et on se sent coupable de les laisser.
Il y a une fidélité, il y a une sorte...
Ouais, je dis qu'on les revoit par 10 ou 20 ans en arrière, comme si c'était la veille.
Bah ouais, je pense.
Idir, vous, votre personnage, il est le déclic de toutes les galères. Non, mais c'est vrai.
Ouais, c'est ça. C'est
chaque fois qu'il y a une merde dans le film, c'est vous le point de départ.
C'est ça. Moi, je pense que c'est un rôle clé. On appelle ça un rôle clé parce que je développe toujours mes recettes.
Ah, le canois.
Pensez au César. Idir, pensez au César.
Écoutez, il est fort.
Bien sûr.
Mais ouais, non, c'est un rôle clé. C'est un rôle clé. Et voilà, sans lui, il n'y a pas d'histoire, mais effectivement, c'est un groupe de trois, parce que même si, je pense que si le rôle de Salif ne travaillerait pas, il serait H24 avec nous.
Absolument. Voilà. Mais alors, votre personnage, il met tout le monde un tout petit peu dans la merde, mais il est attachant. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire qu'on ne lui veut pas de mal. On veut même qu'il lui arrive rien de mal. On a même peur par moment dans le film pour lui. Et parce qu'on sent qu'il est déchiré, qu'il est un peu... passer à côté de certaines choses dans la vie, ou que la vie n'a pas toujours été tendre avec lui.
C'est ça, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Et c'est une personne qu'il faut aider, en fait. C'est une personne.
C'est pas un méchant.
C'est pas un méchant, non. C'est quelqu'un qui est perdu un peu et qui voilà. Mais il faut l'aider. Enfin, il faut lui faire comprendre, et peut-être que dans le film, il y a un moment donné,
il vous lui donnez beaucoup de tendresse, je trouve, dans la façon dont vous le jouez. On s'attache directement au-delà de l'écriture.
Sauf qu'il faut l'éviter, quoi. C'est-à-dire, tu sens que le mec, il va te faire des trucs.
Chaque fois qu'il prend une décision, c'est.
Ouais, mais on parle pas, par exemple, du personnage de Paul Kircher. Est-ce que ça suscite chez lui,
il
en fait
venir.
Voilà, ça c'est vrai.
Nagui a totalement raison.
Il a raison. Mais en tout
d'ailleurs,
cas...
c'est le moins bon des trois.
Hein. Clairement. Non, mais il le sait, c'est pour ça qu'il vient pas.
C'est aussi ça. L'exploration humaine de ce personnage, de dire jusqu'où on est prêt à aller. Ouais. Et on voit qu'il a une forme de dévotion, il est prêt à donner tout son argent pour qu'il aille se faire soigner.
C'est exactement ça.
C'est un personnage qui grandit aussi.
Exactement. Et même aussi, ce qui est beau aussi, c'est que à un moment donné, on peut croire que c'est lui le grand frère, que je suis plus grand que lui, dans le film. Et du coup, ça c'est magique. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup eu de personnes qui aimaient tellement son ami, qui n'a pas lâché jusqu'à peut-être des fois se perdre lui-même.
Il y a une scène dans je sais pas, c'est un van ou un camion ou une estafette, en tout cas, vous êtes tous les trois, et vous avez beau les vanner, Salif, ils vous font encore rire, ces deux-là. C'est-à-dire que vous êtes à deux doigts de passer à nouveau de l'autre côté en disant ah, je suis quand même trop bien avec eux, quoi. Ils font marrer.
Mais ils sont désarmants parce qu'ils savent très bien qu'ils sont un peu pathétiques, mais justement, c'est ça qui les rend extrêmement drôles. Ils sont très touchants.
Météor, le film est réussi parce que d'abord, ça parle vrai, ça va vite, il y a de la zip, c'est rythmé. Et ça parle d'un vrai sujet qui sont ces poubelles nucléaires, avec la possibilité de se dire Ça va ressortir un jour du sol, ça va ressortir un jour de ces 500 mètres de profondeur, ça va forcément pourrir notre vie, on risque notre vie. On les voit même en train de, avec une espèce de perceuse et avec la question, mais je risque rien. Ah, vas-y, vas-y, c'est bon, tu risques rien. Aller. C'est-à-dire que ouais, c'est la phrase qui suffit. T'es sûr? Ouais, ça va aller.
Bon, bah, on y va.
On y va. Puisque tu l'as dit, puisque je te crois, puisque t'es mon pote, c'est ça qui est, ouais. C'est ça qui est fort. C'est réussi et c'est extrêmement bien joué par les trois. Paul Kircher, tu vois, j'ai du mal à lire. Idir Azoulay et Salif Cissé dans ce film d'Hubert Charuel avec Claude Le Pape. Voici Tanguy, passion.
Bon, je voulais parler politique, mais ça va trop vite et je me drogue pas assez pour arriver à suivre, donc j'en parlerai demain. Là, je vais vous parler des chiens. Une fois, je me souviens plus à quel moment sur les 37 années de chronique que j'ai déjà faites ici, mais j'en ai fait une sur le fait que j'ai perdu un chien. J'ai pas perdu au sens Google Maps, hein, perdu au sens décès. Ce jour-là, j'étais mal, mais mal comme une femme qui aime les gens délicats et qui sur Tinder serait fait draguiller par Philippe Etchebest. Je souffrais en fait. Et depuis, en famille, bah, on a repris un chien, Robin, un Parson Russell. Ce sont des chiens de chasse, mais on l'a rendu pacifiste. Il a le même parcours qu'un chef de gang ultra-violent qui, en prison, rencontre Dieu. Maintenant, il est très sympa et rigolo. Il est comme moi, quoi. Il aime manger, comme moi. Il aime courir, comme moi. Il se lèche, comme moi. Non. Parce que je m'entraîne pour l'ouverture de mon compte OnlyFans. C'est le 12 à 9h, code promo Pasturo. Et il a la truffe humide.
C'est gênant.
Il a la truffe humide, comme moi, à chaque fois que j'ai le Covid. Bref, on vit une belle relation, mais depuis hier, je vois bien qu'il me fait la tête. Parce qu'hier, je jouais à Marseille. Bon, tout s'est bien passé, j'avais un mot de validation de Camille Lavabre, tout le trajet de la gare à la salle, j'ai fait le signe de Jules, hein, ce qui n'est pas simple quand on veut porter sa valise. Puis je suis rentré en pleine nuit à Paris, j'ai ouvert la porte de chez moi et là je m'attendais à ce que mon chien me saute dessus de joie, parce que j'étais parti depuis une douzaine d'heures. Et même si ça avait duré juste 5 minutes, il l'aurait fait, les animaux n'ont aucune notion du temps. Ouais. C'est pour ça que dans les zoos à l'ouverture, personne n'est prêt, les girafes bouffent des feuilles, les singes se grattent, tu regardes ton billet d'entrée à 25 balles, hein, tu te dis la prochaine fois j'irai chez Disney, au moins ticket tax, s'ils sont pas à l'heure dite à la parade, le manager les dégage. Mais là, mon chien est resté assis et il a fait waouh, waouh. C'est impossible de savoir ce que ça veut dire parce que Google Traduction ne gère pas le chien. C'est pour ça que personne ne part en vacances en chenille. Hein, par contre, il traduit l'espagnol, ce qui permet de facilement attraper le sida dans les bas-fonds de Saint-Domingue, hein, en République Dominicaine. Donc j'ai pensé, il faut que j'appelle un spécialiste des chiens pour qu'il m'explique ce qu'a dit le mien. Oui. Mais qui? Michel Drucker, il était 1h du matin à l'âge qu'il a. Je me suis dit, il dort. Ou alors, il n'ose pas dormir, de peur de ne pas se réveiller. J'appelle Vincent Bolloré, qui me dit « Ah, Tanguy, mon cheval de Troie à Radio France, n'arrivez-vous pas à faire passer nos valeurs à l'antenne ?» Je réponds « C'est pas simple, je suis à la bande originale, ouais, il n'y a que Morin qui pourrait rejoindre nos rangs, mais là, actuellement, il monte un spectacle, il a besoin des auditeurs d'Inter pour remplir sa salle. » quoi. Donc, il est timoré. Puis, je lui demande le numéro des Dames des Animaux de la 8. Qui sont partis sur le groupe TF1. Ah. J'appelle, ça décroche et ça raccroche. Je me dis, ça c'est un chat qui voulait pas être dérangé. Je rappelle, l'une des femmes décroche. Je dis, que veut dire waf waf grrr? Elle me répond, ça signifie, bah alors pauvre con, on a raté la marche des animaux sur les Champs-Élysées, c'était aujourd'hui. Ah oui. Parce que c'est le problème avec la tournée, je veux dire, c'est qu'on rate des moments en famille importants. Hein, je me suis aperçu il y a seulement 8 jours que mon fils marchait alors qu'il a 11 ans. Hein, la marche des animaux, ça ressemblait aux défilés syndicaux du 1er mai, mais avec des êtres plus propre. Hein, cet événement a vu le jour à Nice il y a 2 ans, et l'an dernier, ils étaient 2000. Des chiens, des chats, des chevaux, et même des lamas. Il y en a un, on a cru que c'était un lama, mais c'était Christian Estrosi de son retour de footing qui bavait, quoi. Et là, ils ont eu l'idée de la faire à Paris. Les rats et les pigeons ont vécu une sorte de grand remplacement, et il y avait une belle unité, parce que l'amour des animaux, bah, ça réunit. Nagui et moi, par exemple, on n'est pas d'accord sur grand-chose, mais une fois un invité est venu avec son chien, et bah, on a eu le même réflexe, on s'est mis à le caresser. Ce n'est qu'ensuite qu'on s'est aperçu que le chien était parti depuis 5 minutes et que ce que Nagui prenait pour Fifi, c'était ma jambe droite. Hein, mais que nous sommes distraits. Je vais dire que j'ai appelé la SPA pour signaler un cas de maltraitance alors que les déchirures cutanées dues au coup de Martinet, elles étaient dans le dos de Nagui. Mais c'est vrai que l'amour des animaux est un lien. Moi, quand je balade mon chien, je parle à des gens à qui je ne parlerai jamais, c'est-à-dire à des gens, hein, juste parce qu'ils ont un chien ou une tierce personne en laisse, parce que j'habite proche du Bois de Boulogne. Et samedi, c'était la journée mondiale des animaux. À Paris, des chiens faisaient des démonstrations. Alors, de premier secours notamment. J'ai lu ça. Si jamais ce sont des bergers allemands qui vous font du bouche à bouche, vous retrouvez avec du frolic au lapin dans le gosier. Enfin, c'est l'horreur. Et il y avait aussi du dog dancing, chien qui danse. Alors, je sais pas ce que c'est. Peut-être que le chien tente de partir sur une salsa comme Nelson Montfort dans Danse avec les stars, avec le même résultat. Hein. Il tombe et il geint. Moi, je fais pas tout ça avec le mien. Juste, il se tait et il a l'air triste. Voilà, quand je vous dis qu'on se ressemble. Hier, il y a même eu des bénédictions d'animaux à Paris dans le 15e. Ont été bénis chiens, chats, lapins, tortues et même des cafards. Hein, j'ai lu ça dans un article du Figaro, journal peu porté sur la déglingue. Un journal qui peut titrer sur Bruno Retailleau dans les pages mode est un journal austère. On bénit des cafards. Ouais, et je pense que d'autres sont venus avec des punaises de lit, hein, avec des matelas, en disant au curé là-dedans, il y a des punaises de lit, 4 mois que ma sœur a des pustules, c'est super, ça l'a protégée du harcèlement de rue, pouvez-vous les bénir ? Ça va très loin, l'amour des animaux. Mais vous savez quoi ? C'est de l'amour. Alors en fait, ça fait de mal à personne et ça ne va jamais trop loin.
Merci Tanguy.
Tanguy sur scène, ce samedi à Vars, c'est près de Grenoble.
Mercredi, Météor sort au cinéma, d'autres événements culturels. Leïla.
On va parler nucléaire. Tiens, cet été, l'un des plus importants incidents nucléaires en France a eu lieu. Savez-vous où ?
Quand ?
L'un des plus importants incidents nucléaires a eu lieu en...
C'était en France ?
C'était, en tout cas, le plus important en France a eu lieu, c'était cet été, okay. Et c'était à Paris. Savez-vous où ?
Bah, tu l'as dit, à Paris, en France.
Oui, mais plus précisément.
Dans le 15e. Institut Curie ?
C'est pas le 15e, c'est pas l'Institut Curie. C'est un lieu que vous connaissez absolument tous. Vous êtes déjà, à mon avis, tous rentrés au moins une fois.
La Maison de la Radio ?
Non plus.
La Scala ?
Non plus.
Pompidou ?
Non plus, mais c'est un musée.
Les Louvres.
Absolument, musée du Louvre. Au musée du Louvre, un restaurateur en archéologie a été irradié à l'avant-bras fin juillet. En fait, il menait toute une série d'analyses sur une pièce ancienne, c'était une trompette gallo-romaine, pour la restaurer.
Et pour ce faire, j'y touche pas,
voilà, ouais, faut pas toucher. Et pour ce faire, en fait, pour faire cette restauration au mieux, il a utilisé un accélérateur à particules Aglaé qui est unique au monde. C'est le seul qui est employé, en tout cas, pour analyser les œuvres d'art. Il permet de déterminer la composition de l'objet, mais aussi sa période, sa provenance géographique. C'est vraiment un outil exceptionnel mis au service du musée du Louvre. C'est un appareil conséquent, hein, 26 mètres de long qui pèse 10 tonnes. Qui est dans une pièce bien isolée. Le chercheur, en fait, ne peut pas y entrer normalement quand l'appareil est en fonction. Mais ce jour-là, il y a un problème de sécurité. Il entre. Normalement, ça devrait stopper la machine avec tout un tas de process de sécurité que je ne peux pas vous détailler parce que je ne les connais pas. En tout cas,
c'est une bonne raison.
Je suis honnête. Mais il va pour repositionner, en fait, l'objet. Et là, son bras passe devant le rayon.
Wow.
Brûlure. Il parle d'une sensation d'une vive chaleur, brûlure au premier degré. On ne sait pas encore à quelle dose de radioactivité il a été exposé. Et on ne sait pas présentement la suite pour sa santé. En tout cas, c'est pour vous dire que le nucléaire est un petit peu partout, finalement. Il est plus proche de nous qu'on peut le penser.
Est-ce que la machine a déterminé d'où il venait ?
C'est ça. Comment on le répare ? Et comment on le restaure ? Est-ce que vous avez... Ouais, c'est... Alors, vraisemblablement, sa santé n'est pas en danger.
On est tout cœur avec lui quand même.
Absolument. Et ça a été rendu public il y a quelques jours, en fait. C'est un événement, un incident qui date de fin juillet. C'est pour dire qu'en fait, le nucléaire, le radioactif, en fait, fait vraiment partie de nos vies. En tout cas, là, dans ce cas-là, pour la restauration des œuvres d'art. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier qui vous fait un effet incroyable, sans parler de radiation, bien sûr. Est-ce qu'il y a une œuvre, que ce soit une musique, une chanson, un artiste, un tableau, une sculpture, que vous gardez en mémoire ? Salif ?
Qui vous fait de l'effet.
Ouais, qui vous fait de l'effet. Ouais.
En vrai, la Mona Lisa, mais parce que je l'ai vue quand j'étais tout petit.
Ouais, c'est vrai.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle vous fait, cette Mona Lisa ? Est-ce que c'est parce qu'elle est très connue qu'elle vous fait de l'effet ou c'est parce que ce tableau-là...
Il y avait de ça et en même temps, il y a vraiment un truc dans le regard. Quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui est fascinant. On reste devant et on ne voit pas le temps passer.
Vous ne l'avez pas vu depuis longtemps ?
Ouais, très longtemps.
Très longtemps. Et vous, Edia ?
Et on n'a toujours pas compris, pardon, le secret de ce...
Ouais, non, c'est vrai.
Moi, naturellement, ça va être la bonne mère. Parce que j'ai trop en plus, en ce moment, elle est en réparation. Donc, du coup, on a l'impression qu'elle est un peu enfermée.
Oui. En rénovation ou en réparation ?
En rénovation.
Ça va durer un petit moment, oui, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ils ont même trouvé, pour l'anecdote, pendant qu'ils sont en train de la rénover, ils ont trouvé des balles de l'époque de la guerre.
Des balles.
Ouais, ouais, des balles.
Oui, sur la façade.
Ouais, ouais, sur la façade. Ouais.
D'accord. Non, je croyais des ballons de mecs qui avaient raté des pédés ou trucs comme ça.
C'est une déclaration de guerre.
Ils sont leaders. Non, mais ils sont leaders.
En ce moment, ils sont en ce moment, tout se passe bien pour eux.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, justement.
Ici, ils sont en tête du championnat. Ouais.
On va rester à Marseille. On va aller au Mucem. À l'occasion de l'entrée au Panthéon de Robert Badinter, le musée a décidé de lui rendre hommage. D'après vous, comment ?
Une expo sur l'histoire de l'esclavage, peut-être ?
Non.
Non, sur la peine de mort.
Ah ouais, sur la peine de mort.
C'est pas loin de ça. Ah. Mais comment ?
Ils vont condamner
c'est
quelqu'un
pas simplement
à mort.
Une exposition. Ils ont choisi d'exposer quoi ?
Son discours.
Son discours. Ouais. Non, il a fait le...
c'est plus réel.
Ce qu'il a écrit à la main, c'est...
Non plus. Non.
Son pantalon.
Si je vous dis Alphonse Léon Berger, c'est le nom du créateur.
Ses costumes ?
La robe d'avocat ?
Une guillotine.
La guillotine.
Non.
Wow. Cette pièce est entrée en 82, donc un an après l'abolition de la peine de mort, dans les collections nationales. Et en fait, à cette occasion, le Mucem a décidé d'exposer cette guillotine. Badinter disait que la guillotine avait l'air d'une espèce d'idole sanglante qui attendait sa ration de mort. Voilà comment cet objet-là est devenu une sorte de pièce de musée. C'est quand même un chemin assez intéressant pour un objet aussi symbolique qui a marqué quand même un pan de notre histoire. Donc on peut aller au Mucem aujourd'hui, dès aujourd'hui, pour voir cette guillotine. Alors, je ne sais pas quel regard on peut porter.
Ouais, c'est ça, t'as envie d'y aller, toi.
Et en même temps, ça fait partie de l'histoire. C'est se dire qu'il y a des hommes qui sont passés et des femmes qui ont été condamnées.
On peut l'essayer sur place ou pas ?
On peut essayer avec des carottes, Daniel. Un peu, absolument. Le Mucem, c'est un lieu absolument fou, merveilleux, où je trouve qu'à chaque fois, il y a une rencontre de culture assez étonnante dans la programmation. D'ailleurs, là, il y a des rencontres qui sont prévues autour de l'abolition de la peine de mort dans ce cadre-là, puisque c'est la prison de Marseille, hein, les Baumettes, qui est aussi entré dans l'histoire avec le dernier condamné, c'était Aubomet. Est-ce que l'entrée de Robert Badinter au Panthéon, c'est un événement que vous allez suivre, une cérémonie qui est retransmise
jeudi,
à la télévision jeudi à partir de 17h sur France 2, je donne toutes les indications.
Si on est obligé, oui. Mais...
Non. Non, mais est-ce que vraiment c'est trop gentil,
à la crée du cœur.
Est-ce que c'est un destin qui vous intéresse, l'histoire de Badinter ? Est-ce que de là, aller voir la cérémonie.
C'est un vrai virage dans notre histoire.
Ouais.
Ce qu'il a réussi.
C'est clair. Après, de là à voir la cérémonie, je sais pas, mais en vrai, il est très intéressant.
Et vous ?
Moi, pareil, je pense que non, je vais pas aller le voir parce que je trouve ça très trash.
Alors que les autres jours de la semaine, Yann, n'oubliez pas les paroles à la plage.
C'est Badinter, n'oubliez pas les paroles. Je suis sûr, tout d'un coup. Mais...
N'oubliez pas la parole.
Vous devriez peut-être mettre une guillotine en fait sur le plateau, ça relancerait un peu le jeu, je trouve, non ?
Allez. Ils oublieraient moins, les gars.
Voilà,
Le 24 décembre prochain, Idir, vous serez à l'affiche de Bagarre, le film de Julien Royal. Le 7 janvier, on vous retrouvera dans Ma Frère, de Lisa Coca et Roman Guéret. Et vous avez tourné deux séries, sous la direction d'Olivier Marchal pour Netflix, Pax Massila, et Un Prophète pour Canal, par Enrico Maria.
C'est une suite, Pax Massila.
C'est une suite.
Et vous, Salif Cissé, Love Me Tender, d'Anna Cazenave-Cambé, ça sortira le 10 décembre prochain, et vous avez terminé le tournage de la série Paolo de Sébastien Monnier, qui sera disponible bientôt sur Max.
HBO Max, HBO, maintenant ils disent HBO, ils ont lâché Max parce que personne ne comprend.
Non, mais HBO. Météor est au cinéma mercredi. On a aimé ce film formidablement interprété par Paul Kircher, Salif Cissé et Idir Azoghi. Des excuses à présenter, Daniel.
Désolé pour les fans de Bruno Pecky qui ont découvert la passion de leur idole pour la tonte, le rasage de boules, boule à zéro, voilà. Ah, t'aurais été bon en 45. Et t'aurais été bon aussi en collabo, mais je te comprends tellement. La famille, quoi. Hein. Désolé pour tous nos auditeurs sensibles aux odeurs qui, vers 11h40, ont sursauté quand ils ont entendu le conseil d'Idir, à savoir...
Faut sentir que ça sent la merde.
Mais c'était pas un ordre, les gars. C'est pas non plus un conseil, un art de vivre suggéré par notre invité. C'est juste une phrase qu'il a sortie comme ça. Désolé pour nos auditeurs un peu lents qui ont été perdus par l'émission de ce matin où on a parlé de voler des chats à Marseille, d'enterrer des déchets nucléaires au Martinez de Cannes. Moi aussi, je suis paumé, hein, vous en faites pas. Hein. Heureusement, Leïla l'a dit, on est dans l'impasse, on va tous crever. Et là, je peux vous dire que je suis rassuré.
Absolument.
Il n'y a qu'un point d'écart entre l'OM et PSG, ça va.
Ah ouais, mais c'est un point d'écart. Voilà, c'est vrai. Mais depuis quand t'es pour l'OM?
Je crois qu'ils avaient perdu. Non, mais c'était
pas depuis quand.
Attention.
Je suis pour le beau match. Et on salue aussi Strasbourg et Lyon. Voilà, comme ça, on a tout dit. J'aime tout le monde.
Moi aussi.
La guerre, c'est moche.
La guerre, c'est moche. Et vive la paix.